Du 16 juin au 6 juillet, Odile Borance et Michael Cohen nous invitent à un voyage au pays des merveilles intitulé Un peu d'Alice. Une carte blanche à l'underground artistique de la Chine, à l'occasion de laquelle de nombreux plasticiens, musiciens et performeurs viennent rencontrer leurs homologues de Marseille et d'Aix-en-Provence pour une série de manifestations et d'installations. Cette programmation, elle est tout d'abord née d'un voyage accompli entre novembre 2004 et août 2005. Tu me dis si je me trompe,
non, Michael. C'est exact.
Et de rencontres au cours de ce voyage, rencontres notamment avec Franck Serrano, français expatrié à Chengdu, puis à Shanghai, où il a fondé une galerie d'art et développe des réseaux de rencontres, de diffusion, des passerelles artistiques entre l'Europe et la Chine. Et c'est lui notamment qui a assuré la direction artistique et la coordination logistique de cet événement. Franck Serrano est avec nous sur ce plateau. Bonjour Franck.
Bonjour.
Un petit rectificatif tout de suite, je te voyais en dénégation sur la présentation que je faisais
je
de ton travail.
Je n'ai pas assuré la direction artistique, il revient entièrement à Michael et Odile.
D'accord.
J'ai fait des propositions, certaines ont été acceptées, d'autres pas. J'ai assuré la coordination et je donne un coup de main.
D'accord. Tu n'es pas venu tout seul pour cette émission, tu es venu avec des représentants éminents de l'underground chinois, ils sont nombreux autour de ce plateau. Je te laisse peut-être le soin de les présenter.
Bon, on va les présenter. À ma gauche, il y a Shed Indian qui est un sculpteur qui va présenter pour Un peu d'Alice une porte de monumentale, une porte de guerrier de 6 mètres de haut, faite à partir de tressage de fil de fer. Il vit et travaille à Chengdu. Ensuite, Wang Ray, dit Geezer, qui est aussi de Chengdu, dont on a pu entendre le live sur Radio Grenouille. À sa gauche, Wei Qingji, qui vient de Canton, qui est un peintre. Et Mu Yuming, un farmer mou, qui vit à Lijiang et travaille à Lijiang et qui est un performeur, vidéaste, un artiste multicart. Et Michael.
Eh bien, tous Dajiahao, Huang Ying, je ne sais pas si je prononce très bien, mais c'est supposé vous dire bonjour et bienvenue à tous pour cette émission consacrée à l'underground chinois. Underground, un mot qui sonne très et peut-être trop américain pour désigner un courant culturel qui ne se situe pas dans le registre de l'art officiel. Mais au fond, un courant pas si souterrain que ça, notamment à Chengdu, une ville qui semble incarner aujourd'hui ce que Hong Kong avait été naguère, une ouverture de la Chine au monde des affaires bien sûr, au monde de l'argent, mais aussi et sans doute par ricochet, au monde des arts. Franck, tu as habité à Chengdu, je crois que tu es aujourd'hui à Shanghai, mais tu connais bien la ville de Chengdu. Peut-être pour commencer, à propos justement de ces transformations de la Chine nouvelle sur l'évolution du pays, comment est-ce qu'on vit de l'intérieur ce passage progressif, ce glissement de la Chine de Mao Zedong, qu'on a connu il y a quelques années, à la Chine actuelle qui semble amorcer un virage presque vers un mixte entre le capitalisme et puis le régime tel qu'on a pu le connaître autrefois. Comment est-ce qu'on vit cette situation d'évolution ?
Mao Zedong 到现在在中国，其实在成都， 是什么样的情况，然后有什么样的过程在做艺术？是老师可以回答。薛金建晚上来工吧。
现在是这样的，毛泽东跟成都人的关系越来越远了，因为这个时间很长了。但是艺术方面好像还有一些表现。首先，成都还有。
Si on parle de la période actuelle, les relations entre Mao Zedong et l'art actuel sont de plus en plus éloignées. Mais il est vrai que Mao Zedong est une figure qui a marqué les esprits, mais aussi le paysage urbain. C'est-à-dire, Chengdu, il y en a encore. Au centre de la ville se dresse une statue extrêmement haute de Yotoka, Mao Zedong de Kaosu, 4 mètres, donc devant l'hôtel de ville. Il dit en gros que ces relations, en fait, il faut plutôt les penser comme des relations à l'environnement, mais à partir de... C'est-à-dire que même si Mao Zedong, son influence a été grande, et on peut le voir dans la production artistique, notamment dans la fin des années 70, des années 80, ce qui a changé, c'est que maintenant les artistes pensent peut-être plus par eux-mêmes et ne se posent plus trop ce genre de questions. Ils se sont un peu débarrassés comme ça d'une figure très très... trop présente à la fois visuellement et spirituellement.
Donc ils inventent leurs propres conditions de production et de diffusion en inventant leur propre circuit. Mais est-ce que, là on a bien entendu le plaisir d'accueillir aujourd'hui des artistes qui sont très libres, très indépendants, qui forment ce qu'on appelle l'underground chinois. Mais à part ça, qu'est-ce qui existe en Chine en termes d'institutions culturelles? On est très curieux de savoir ça.
嗯，文化是什么样发展？比如说，有什么样的博物馆，或是艺术家在应该是可能在发明自己的路？可能这个穆一鸣可以回答。On va faire répondre Mu Yiming parce que Mu Yiming il est à la fois artiste mais il a aussi un centre d'art contemporain et il a aussi un studio de résidence.
Avec plaisir à toi.
这个问题太难了，因为中国的现代艺术，
这个 question 也太 difficile，
还是环境还不是太好，艺术家都工作的比较困难，没有政府的支持，所以有一些那种组织，但是
我在翻译。Il dit en fait que l'environnement n'est pas excellent en Chine parce qu'il n'y a aucun support par exemple des autorités.
这样的组织一般是几个艺术家在一起合作。
C'est quelques artistes qui se mettent ensemble pour produire. Et...
或者是有国外的一些基金会帮助一下。
Ou alors il y a quelques institutions étrangères qui les aident, des fondations notamment.
政府和艺术家之间的关系，我自己觉得还是跟100年前差不多。
Il pense que les relations entre les artistes et les institutions, elles sont au même stade qu'il y a 100 ans.
Voilà, enfin, nous, ce qu'on a pu Michael. Voir, ce qu'on a pu voir dans notre voyage, et, bon, c'est par notre voyage qu'on a rencontré Mu Yiming. Je voulais revenir au départ, en fait, au niveau de la direction artistique, comment ça s'est créé.Cette édition d'Alice, cette deuxième édition en fait d'Alice, puisque la première était sur Lewis Carroll. Donc c'est un peu aussi pour ça qu'on a appelé ça Alice Underground, puisque c'est le titre du livre de Lewis Carroll. Et quand on a rencontré Mu, c'était par le voyage, parce qu'on avait envie de faire quelque chose avec des thèmes de transhumance, de nomadisme, avec de la cinéplastique, quoi. Par rapport à ce qui se passe en Chine, au niveau en fait, de la condition de l'artiste, on a pu voir une formidable énergie aussi. Parce qu'à la fois, en fait, ils sont dans des contraintes très très difficiles, parce qu'ils ne sont pas aidés, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et en même temps, ils ont une vitalité qui est incroyable, quoi. Par exemple, ce soir, donc, on va faire une nuit de court-métrage. On a pu rencontrer Ouning et Cao Fei de Alternative UTEC, archives qui ont en fait une vidéothèque à disposition des professionnels et des vidéastes qui archivent tout ce qui se passe qui sont eux-mêmes des artistes. Et je me rappelle cette conversation qu'on avait eue, c'est que ils nous enviaient quelque part en fait, mais d'avoir des institutionnels, parce que eux, ils étaient, voilà, en fait, mais dans des conditions artistiques très 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 difficiles, quoi.
Précaires, sûrement, notamment en termes de locaux. Par exemple, toi, à l'occasion de tes voyages, et peut-être Franck aussi, comment est-ce que vous arrivez à les trouver? Dans quel lieu est-ce qu'ils répètent? Comment est-ce qu'ils arrivent à trouver des lieux de travail?
Ben, en fait, pour donner une échelle à peu près, en fait, Beijing, c'est à la taille de la Belgique, quoi. Donc même les petites villes, elles sont quand même, à notre échelle, très très grandes. Et nous, en fait, on est partis pendant près de 10 mois en voyage. Et aussi, on était partis avec des dogmes de comment voyager. Et dont un de ces dogmes était aussi la dérive. Donc on partait vraiment en dérive dans la ville, donc on prenait du temps aussi pour dériver, pour dénicher. Des galeries, pour faire un recensement comme ça de galeries, de lieux alternatifs. Parce que sinon, en fait, toutes les galeries visibles d'ici, de Chine, elles sont quand même assez répertoriées, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez difficile au niveau des locaux, parce que par exemple, au Shaoyang District, qui est le plus grand centre d'art, le plus grand regroupement de galeries en Asie, en fait, mais qui est, enfin, mais pour donner une échelle, c'est à peu près 50 fois la Friche. Et bien là, en fait, nous, ce qu'on a vu, ce sont des directeurs de galeries chinois qui ouvraient en fait des locaux, mais qui dans 6 mois ne savaient pas s'ils n'allaient pas avoir un bulldozer qui allait raser ça, parce qu'il y a des promotions immobilières, quoi, qui se font, et que ce sont aussi des villes champignons. Donc du coup, c'est super intéressant aussi à voir, quoi.
Très rapidement, on pourrait peut-être poser cette question aussi à Geezer. Est-ce que tu trouves des clubs dans lesquels te produire? On rappelle que tu es musicien. Do you find some clubs where you can perform in China? In what kind of places do you play your music?
你在想问你在表演的地方在国内是什么样子？在国内很少能够有俱乐部的一些演出，但是有时候会有一些。
Il dit que l'environnement des clubs en Chine n'est pas terrible. Il y a très peu de demandes au niveau de live set, par exemple. Et c'est plutôt des pouces disques que il n'y a pas vraiment une création artistique qui est requise. En fait, le circuit plus intéressant, c'est le circuit peut-être des bars. Et de petits bars comme ça où les gens produisent leur propre musique, ils la vendent sur place. Et...
On se retrouve dans quelques secondes pour continuer ce panorama de l'underground en Chine. Le temps d'écouter quelques notes de musique, précisément de Geezer, qui vient d'intervenir à l'instant. C'est le mot d'ordre collectif qui caractérise l'ensemble des propositions artistiques que nous découvrons au travers de ce Un peu d'Alice en Chine. Un ensemble, il faut le dire, très diversifié. Révolution, paix, amour, c'est pas le tout de le dire, mais eux, eh ben, ils le font. Et on va voir maintenant comment. Notamment avec Mu Yuming, on va maintenant s'intéresser d'un peu plus près à ton travail, à ton œuvre. Tu es plasticien, performeur, tu es animé d'une énergie à remuer les montagnes. et d'une capacité hors du commun à aligner les idées les plus étonnantes. Une thématique notamment autour de la révolution. Mais pas cette révolution-là, cette révolution des politiques. Une révolution de tous et de chacun, une révolution humaine. Pour toi, Mu, est-ce que la révolution, c'est une idée trop sérieuse pour être laissée uniquement aux politiques ? Peut-être Franck, si tu peux traduire.
Il
dit que la révolution, on ne peut pas le laisser à qui que ce soit, mais à soi-même. Il faut que ça passe par soi-même.
En tout cas, dans ce travail sur la révolution, on constate de nombreux détournements des codes, détournements des signes, des drapeaux. C'est un élément assez récurrent dans son travail. Plus que provocation, parce qu'on pourrait imaginer que ce type de performance relève de la provocation, on a l'impression que l'intention de Mus, c'est plutôt de faire bouger le public, en fait, de mobiliser le public. Est-ce que c'est bien comme ça que lui ressent son travail ?
L'idée de Mu, c'est que chaque personne qui assiste à ses performances, notamment autour de la révolution, rentre lui-même dans un processus révolutionnaire. Et puis, une fois qu'il est rentré, il ressort et il porte tout ça aussi pour le communiquer à ceux qui n'étaient pas présents.
Ici en Europe, un mouvement artistique a eu lieu dans les années 70. Il est assez célèbre, il s'intitule Fluxus et il avait pour ligne en quelque sorte artistique que l'art devait d'abord être dans la vie, qu'il n'y avait aucune différence entre l'art et la vie. Et ce que tu fais, Mu, c'est quelque chose qui est aussi un peu dans cette ligne. Alors, est-ce que tu agrées déjà à cette proposition ? Et puis, est-ce que tu connaissais les artistes de Fluxus ?
Il
est d'accord par contre à 100% avec cette proposition que l'art est dans la vie et enfin l'art c'est la vie.
Peut-être une autre question, on a tendance ici de très très loin à considérer que la Chine c'est la Chine, c'est-à-dire une seule et unique chose qui est composée d'un seul et unique peuple qu'on sait très vaste, mais ce qu'on sait moins c'est que ce peuple est composé aussi de ce qu'on appelle les minorités ethniques, en fait de toute une vastitude de peuples différents. Et la question que je voulais te poser, Mu, c'est est-ce que ces minorités ethniques ont une expression en Chine ? Est-ce que leur culture évolue dans une dimension contemporaine ou bien est-ce qu'elles sont cantonnées à une sorte de folklore ? Il fait partie de
minorité.
Il est de la minorité des Nazis. Il y a 500 000 personnes qui regroupent cette minorité, regroupe 500 000 personnes.
Donc, 现代当代艺术跟少数民族的关系 非常复杂，我觉得。
C'est des relations très compliquées en fait entre l'expression contemporaine et la culture des minorités.
我在国外，我九五年的时候我就出来学习，然后如果没有出到国外，可能还是会有一些距离跟中国的现当代艺术，我可能应该去北京、上海这样的地方。
En fait, il dit que s'il n'était pas, donc lui, il vit toujours dans le Yunnan, mais s'il n'était pas allé à l'étranger très tôt, parce qu'il est commencé à devenir un petit peu connu en 1995, il aurait été obligé de vivre à Shanghai ou à Pékin.
Donc, dans la vie, je crois que quand beaucoup de gens sont très loin, 跟一些人很近，所以这个是我们的问题。这是为什么我同意你刚才说的那个观点，艺术应该就在生活里，发生在哪里。
En fait, il dit que de toute façon, l'art contemporain, c'est quelque chose de très lointain pour beaucoup de gens et très proche pour peu de gens. Et un peu, il a réaffirmé le proposition de Fluxus.
J'aimerais ajouter, si je peux le permettre, pour vraiment présenter Mu, c'est que Mu est le chef héréditaire de Li Jiong. C'est-à-dire qu'un de ses ancêtres avait permis à Kublai Khan de passer une rivière pour conquérir une province. Et à Li Jiong, Mu m'a amené visiter le temple dédié à Mu. Et Kublai Khan avait ainsi dit que Mu serait de père en fils le chef héréditaire de Li Jiong. Donc c'était assez amusant de se promener avec un artiste aussi fou que lui. Enfin, il le prendra pas mal. Et de savoir en même temps que c'était une sorte de petit roi dans son royaume. Et donc à un moment, il m'a fait traverser toute la ville par des portes secrètes. Ce qui était vraiment incroyable, parce qu'on rentrait dans des cuisines, on passait dans des appartements, on passait par des cours, on passait par des traverses ou des escaliers, et toute la ville était ouverte, quoi. Et Mu, il est très très attaché à son identité nasi.
Peut-être une question aussi à Mu et plasticien, mais je crois que ça n'est pas le seul autour de cette table. Une question qui serait intéressante à partager, c'est celle de la récupération, de l'utilisation des matériaux de récupération. C'est aujourd'hui quelque chose qui est une tendance naturelle, qui est une tendance très répandue dans le domaine des arts plastiques, dans l'actualité créative en Chine.
在中国当代艺术用的一种材料跟艺术没有关系的，他想知道比如说一种垃圾或是一种对垃圾他想知道在中国这个主意是不是很重要的。
这个好像在中国我觉得在法国好像人比较关心这个。
你看 c'est intéressant，ça a l'air d'intéresser surtout les gens en France. L'année passée, il a utilisé des excréments de porc pour construire un Himalaya. Mais parce qu'il a fait ça en France.
Mais ces poules, c'est très intéressant. Il est en Chine pour acheter des poules. Il est en
France. En fait, il s'est rendu compte que ces porcs,ils étaient d'abord nés en Chine et ensuite élevés en France.
Je vois à peu près la nature de la plaisanterie.
Ce qui l'a séduit, c'est l'idée d'un porc chinois qui chie en France.
C'est ça, ouais, c'est à peu près ce que j'avais compris.
En fait, il dit que les porcs chinois sont ceux qui se développent le plus, qui deviennent les plus gros.
Bon, moi je voulais poser une question sur les rapports entre les artistes et puis les préoccupations écologiques de la Chine, mais je crois qu'on verra ça dans quelques instants, juste après quelques secondes de son. Quelle image nous faisons-nous d'une œuvre d'art? Est-ce que c'est un carré de soie sur un mur, un monde à part, compliqué, codé, réservé aux élites? Ben, je ne crois pas. Et on va notamment découvrir dans quelques instants le parcours et le travail d'un artiste, Wei Qingji. Et je te laisse le soin, Michael, de présenter son travail. Un travail, je crois, qui s'étale sur depuis déjà une bonne dizaine d'années, avec un travail notamment sériel, un travail sur des séries qui est parti au départ de la calligraphie.
En fait, on a rencontré Wei à Canton. Il a 35 ans. C'est un jeune peintre qui a déjà une très très grande expérience. On l'a rencontré à Canton dans son atelier. Il nous a montré une à une toutes ses séries. Donc depuis une dizaine d'années. C'est quelqu'un qui a appris la calligraphie vraiment dans l'art de la calligraphie, dans le dogme. Il s'est délibérément, à partir d'un moment, démarqué du dogme traditionnel pour faire vraiment une peinture très contemporaine. Alors, il y a différentes séries. La première, en fait, c'était des lettres T en noir qui envahissaient le tableau et qui, au fur et à mesure, commençaient à descendre dans le tableau et le blanc regagnait son importance. Il utilisait ses lettres T, enfin le brush, d'une manière totalement non calligraphiée. Et ensuite, comme le blanc a beaucoup regagné de son importance, il a commencé à peindre vraiment toute une iconographie chinoise et occidentale à partir d'une couleur brune de T et à écrire des mots à côté. Par exemple, il dessinait un immeuble et il écrivait à côté « Sun, Water, Air ». Et à côté, il dessinait des puces en train de forniquer avec un préservatif. Donc il demandait en fait de l'eau, de l'air et du soleil pour sa ville. Et puis aussi, il demandait si on ne pouvait pas donner un préservatif, par exemple, à des puces. Parce que bon, enfin voilà, les puces, elles envahissent les villes à Canton.
Donc, voilà, on retrouve les préoccupations écologistes qu'on avait quittées tout à l'heure avec la merde de porc.
Et du monde meilleur. Je crois en fait, nous, ce qui s'est passé en fait au cours de ce voyage, c'est qu'on ne savait pas du tout quel artiste choisir. Donc ça s'est fait au niveau des rencontres, mais voilà, bon, on avait envie aussi de donner un sens à cet événementiel, que le monde des merveilles parle aussi d'un monde meilleur. C'est pourquoi en fait, bon, Mu, il est totalement là-dedans, il baigne là-dedans, mais aussi Wei Qingji parle aussi de sa ville, de sa vie, et aussi de ce qui peut se passer dans les rencontres entre la Chine et l'Occident, quoi. Et là, en fait, spécialement pour un peu d'Alice, il a créé 14 nouveaux tableaux qu'on pourra voir au pavillon de l'enfant. Et donc, qui sont encore une poursuite d'une énième série, mais qui posent aussi des questionnements en fait, sur la Chine d'aujourd'hui. Mais il vaut mieux lui en...
Il est avec nous, donc on va peut-être pouvoir directement lui poser la question. Un travail qui est parti au départ de la calligraphie, c'est-à-dire d'une certaine forme d'abstraction. Et d'après ce que l'on peut voir aujourd'hui de son travail, c'est quelque chose qui est peut-être plus dans le réel, peut-être plus dans le concret, mais en montrant aussi à quel point ce réel et ce concret recèlent une part de mystère. Alors est-ce qu'effectivement c'est bien, selon lui, dans la ligne de son... de son travail.
对, 但想问你一下, 是你的作品, 是用一些书法的方法, 可是在做当代的艺术, 是他想理解这个, 这种过, 从书法到当代, 是什么样的过程?
对, 严格来, 严格的来说, 用的不是书法的概念, 就是水墨, 中国的那种水墨。
En fait, plus que la calligraphie, c'est la base principale de son travail, c'est l'encre. Donc, ça ne se limite pas à la calligraphie, c'est l'encre et l'eau.
对, 我用的就是, 传统的一些材料, 就是很长的这个水墨画的材料, 宣纸啊, 墨,
Donc, il utilise en fait des ressources, des matériaux traditionnels.
还有一些传统的一些经验。
Et des techniques traditionnelles.
但就是我也把这种经验就是跟就今天我们的这样一个文化关系就发生关系基本上我的创作我想是跟一些记忆或者是日常生活有关系.
En fait, ce qu'il questionne à travers ça, à travers l'utilisation de ces ressources, de ces matériaux, de ces techniques traditionnelles, c'est justement le rapport culturel entre le monde d'aujourd'hui et ce qui a mené au monde d'aujourd'hui et qui sont toutes ces ressources.
Oui, je crois que tu habites Canton. Est-ce que là-bas, la situation est un peu différente de celle qu'on a décrite à propos de Chengdu ou à propos de Beijing? Enfin, est-ce que toutes les grandes villes de Chine se ressemblent ou est-ce que certaines ont un peu une spécificité en matière artistique?
Tu es à Guangzhou, et je voudrais te demander Guangzhou, dans le domaine de l'art, dans le domaine
de l'art, quel est le plus grand de l'art? Oui, Guangzhou, c'est une 但是它又是一个很开放很早的城市。
En fait, Canton, c'est une ville qui... Peut-être que c'est la ville qui le plus tôt s'est ouverte au... qui s'est ouverte au monde, en Chine.
中国这些革命,比如孙中山,他们都从广州开始的。
Beaucoup de révolutionnaires, pour revenir au sujet révolutionnaire, ont commencé à... Beaucoup de révolutions ont commencé à Canton et de révolutionnaires viennent de Canton.
但它又是离那个政治中心,离北京啊,这样一些政治中心很远。
Parce qu'en fait, il faut comprendre la distance par rapport au pouvoir central qu'il y a à Beijing. Donc c'est une très grande distance. Il y a Douyuan. Douyuan. De Beijing à Guangzhou, il y a Douyuan.
Il y a Douyuan, il y a 2000
km. Il y a 2000 km.
Tabouto, hein.
Donc on ressent moins la pression du gouvernement.
但它又是中国经济开放最早的一个地方,而且也是很发达的一个地方。
Mais en même temps, c'est peut-être la région la plus riche et la plus développée de Chine.
对,但是因为经济的发展,所以说,因为发展得很好,所以可能在文化方面,就是不是特别好,特别的一个。
Mais en fait, ce développement, cette richesse nuit un petit peu au développement culturel.
对,但是最近有一些变化,就是说, 现在广东有一个非常好的美术馆。
Mais récemment, il y a eu des changements. Par exemple, en ce moment, à Canton, il y a un très bon musée.
Le广东美术馆.
Qui s'appelle le Musée des Beaux-Arts de Canton.
对,他们做得非常非常开放.
Et en fait, ils font une programmation qui est très ouverte.
比如说,法国很多当代艺术都在那里做过展览, 很大的展览.
Par exemple, il y a beaucoup d'artistes français qui sont venus faire des expositions là-bas.
他们也把中国的当代艺术也曾经带到过法国,像里昂,像很多地方。
Et en fait, ils ont aussi des très bonnes relations avec, par exemple, la Biennale de Lyon ou des choses comme ça. Donc, aussi des ponts se créent à partir de ce musée.
对,因为近几年来不断的有很多当代艺术展在广东做,我们也见过很多人,接触过很多国内的、国外的这样一些当代的艺术家、策展人。
En fait, ça a permis énormément de rencontres au niveau au moment de ces expositions et notamment énormément de rencontres entre artistes.
Michael évoquait à l'instant un des mots d'ordre, un des leitmotifs de cette manifestation un peu d'Alice, c'est l'idée d'un monde meilleur, l'idée de développer la paix, bien sûr. Est-ce que vous pensez autour de cette table que l'art justement peut y contribuer très activement et que, en tout cas, l'art est un langage universel? Est-ce que vous pensez ça? Alors, c'est Liu Yiming qui répond.
En fait, il dit que l'art
contribue grandement à la paix et il prend l'exemple de Bob Marley. Qui avait organisé un concert entre deux pays en guerre.
De l'amour, pas la guerre. Eh bien l'amour, on en parle tout de suite, après ça. Parlez-moi d'amour, un désir peu compatible avec la morale ou avec la censure, un corps parfois masqué, effacé, pourtant qui ne demande qu'à s'exprimer. Ainsi, par exemple, l'écrivaine Mian Mian, qui était invitée pour cette programmation d'un peu d'Alice, mais qui n'a pas pu venir, je crois pour des raisons personnelles. En fait, ce n'est pas du tout un problème de censure ou de visa.
Oui, des raisons personnelles.
En tout cas, on peut rappeler à l'occasion son travail. Elle est notamment l'auteur de trois livres qui ont défrayé la chronique, Les bonbons chinois, La La La, et puis elle sort maintenant un troisième ouvrage qui est intitulé Panda Sex. Est-ce qu'on va le voir traduit prochainement en français ?
S'il y a une traduction qui est en cours et qui devrait sortir l'année prochaine.
Un autre élément très amoureux, très tendre aussi dans cette programmation d'un peu d'Alice, c'est le travail des Gao Brothers. Ils devaient être autour de ce plateau, mais ils n'ont pas pu se venir aujourd'hui. En fait, je crois qu'ils atterrissent ce soir
même. Ils atterrissent à 11h.
Alors eux, ils proposent un dispositif qui s'appelle Utopia of Hugging for 20 Minutes, c'est-à-dire Utopie d'un enlacement de 20 minutes. Mm. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est tout simplement que les gens se prennent dans les bras les uns des autres, c'est ça ?
Oui, c'est ça, mais c'est un peu plus que ça. C'est un peu... tiens, je vais donner une référence que Franck, il aime beaucoup, c'est La Fêlure de Scott Fitzgerald. Et à un moment, en fait, dans son dernier livre, bon, à la différence de Hemingway, il ne s'est pas tiré une balle de fusil dans la bouche. Scott Fitzgerald écrit la marque de l'intelligence est de pouvoir fonctionner sur deux choses qui sont contradictoires. Par exemple, le monde est sans espoir et je ne cesse pas d'espérer. C'est un peu ce que m'a fait penser, en fait, les Gao Brothers quand je les ai rencontrés. Ce sont des grands artistes donc, qui sont rentrés dans les collections internationales qui exposent un peu partout dans le monde. Et ce sont des artistes du début des années 80 en Chine, quoi, ce qui n'est pas anecdotique du tout. Et en fait, on les a rencontrés donc, à Shaoyang District et on a eu vraiment un très très bon rapport, enfin, comme on a pu tous l'avoir ici, en fait, de travail, on a pu créer du lien, enfin, tout a été vraiment contextualisé, quoi. Donc ça, c'est très important. Et en fait, ils avaient, voilà l'histoire, en fait, ils avaient imaginé une performance sur une plage le 11 septembre 2000, soit un an, jour pour jour, avant le Ground Zero à New York. Et ils avaient voulu rassembler donc 150 personnes inconnues sur une plage pour s'enlacer et pour poser en fait cette question, qu'est-ce que nous pouvons faire face au terrorisme ou face à la violence, quoi. En fait, à la violence aveugle. Donc, ils avaient proposé ce geste. Alors, je pense pas en fait que l'art aussi, à la faculté non plus, voilà en fait, de rendre la paix ou de rendre l'amour. Enfin, on n'est pas dans un angélisme, quoi. Mais à leur humble échelle, je crois qu'ils contribuent un peu, quoi, en fait, d'alléger Atlas de son fardeau. Et donc, ils ont été très, très célèbres, en fait. En tout cas, cette performance a été très, très vue, très célèbre partout dans le monde, parce qu'en plus, ils tournent partout dans le monde. Donc là, ils revenaient, en fait, ils sont revenus à Beijing après une tournée en Europe. Ils reviennent spécialement donc, pour un peu d'Alice et ils font s'enlacer donc, des gens sur des toits, sur des terrasses, dans des parcs, sur des plages, dans des montagnes. Ils prennent des photos et ensuite, ces photos sont exposées dans des musées. Voilà. Et ils étendent leur utopie par le net. Il y a un forum donc sur www.gaobrothers.net où là, en fait, tout le monde peut discuter aussi de quels gestes on peut faire ou de comment réagir, quoi. Et c'est un peu, ben, c'est un peu la phrase d'Alain, quoi. En fait, un geste de haine, il faut répondre par un geste d'amour. Voilà. Et je trouve qu'ils sont super bien là-dedans et en même temps, ils donnent une énergie et une vitalité, ils transmettent ça, qui est fabuleuse.
Comment est-ce qu'on perçoit en Chine cette gestuelle, ce rapport au corps, le fait qu'un écrivain, et peut-être particulièrement qu'une femme, parle du sexe, parle du plaisir qu'elle a à faire l'amour? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est très tabou, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui devient un peu plus libre, quoi, qui apparaît aussi bien dans l'expression artistique que d'une manière générale dans les médias, par exemple?
Moi, je peux pas vous répondre. Je suis parti avec ma femme en Chine, donc je laisse ce soir en célibataire.
Bah, pour en revenir à Mien Mien, je pense son livre, là, donc Les bonbons chinois, c'est d'abord, je crois, un livre d'amour. Et pour situer peut-être le point de vue, je vais revenir un peu à la Révolution. Il y a quelqu'un qui a dit après 1789, le bonheur est une idée neuve en Europe. Bah là, c'était l'amour est une idée neuve en Chine. Donc elle a écrit comme ça les pérégrinations d'une jeune fille. Qui est partie à Shenzhen. Shenzhen, c'est une ville champignon qui a poussé en face de Hong Kong, où, à un moment donné, pour 10 habitants, il y avait 9 filles. Donc, voilà, c'est une ville complètement folle.
Mais comment ça se fait, ça, qu'une population d'une ville entière soit aussi inégale ?
Beaucoup de filles des campagnes et compagnie ont essayé de tenter leur chance, entre guillemets. Il y a eu énormément de doubles mariages, par exemple, des Hongkongais qui étaient mariés deux fois, une fois à Hong Kong, une fois à Shenzhen. Et voilà, et donc elle venait aussi pour trouver l'amour, mais bon, l'amour c'est aussi la sécurité, c'est aussi sortir de leur misère aussi un petit peu. Et voilà ce qui a donné à un moment donné ce paysage si particulier.
Est-ce que dans ce rapport au corps, dans ce rapport à l'amour, est-ce que la politique de natalité restreinte, qui est bah, évidemment la conséquence d'une démographie un peu particulière en Chine, hein, on rappelle 1 milliard 600 millions d'habitants, est-ce que ça a une influence ça sur justement le comportement intime des gens?
Je ne sais pas qualifié forcément pour répondre à cette question.
Peut-être leur demander.
Ouais, mais. Bah, eux, ils ont connu que ça, quoi. C'est
difficile. Alors, peut-être on peut leur demander comment est-ce qu'ils perçoivent l'omniprésence du sexe dans les médias et ici dans les affiches, dans tout ce qui est apparent. Comment est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils en sont choqués ou est-ce qu'ils trouvent ça drôle et plutôt sympa?
En Chine aussi, on est quand même sorti de la pruderie maoïste. Ça s'affiche, les jeunes filles en petites culottes s'affichent dans les métros.
Apparemment, là-dessus, il y a un consensus total. Peut-être un autre élément qui aujourd'hui permet à de nombreux auteurs, je pense particulièrement à des auteurs, écrivains, écrivaines, de s'exprimer au-delà des tabous, de s'exprimer au-delà des censures, c'est Internet. Est-ce que c'est aujourd'hui véritablement pour les artistes, pas uniquement écrivains d'ailleurs, hein, tous les artistes, un nouveau support de travail et un moyen de diffuser leur travail très, très ouvert ?
Oui, c'est un élément assez important. Bisous, c'est à Guangzhou, il y a Muzume. Internet, en fait, à Canton, il y a une écrivaine qui est devenue célèbre, qui s'appelle Muzume, et qui, pendant des années, a mis son journal intime, mais très intime, à la Catherine Millet, un petit peu, mais avec les vrais noms des gens, et certains très connus en Chine. Sur Internet, et ça a été un phénomène complet de société avec des records de posts et compagnie. Et maintenant, elle a publié son journal.
Est-ce qu'Internet est utilisé en Chine par tout le monde, par toutes les générations, ou bien est-ce que c'est vraiment un instrument un peu nouveau et qui est essentiellement utilisé par les nouvelles générations, par les plus jeunes ?
大家想知道谁在用 Internet 在中国，是不是年轻人多，或是老人也用？年轻人会多一些。年轻人多一些。Bien sûr, c'est les jeunes générations qui sont beaucoup plus concernées par ce phénomène.
Du coup, c'est le reflet de la jeunesse chinoise, un peu l'ensemble des sites qui sont disponibles.
所以是不是在看中国的网络的网页，那是不是可以看中国的年轻人？
的文化或是什么？不完全，因为中国官方对网页还是有很多限制。
En fait, il dit que c'est pas exactement le reflet parce que c'est aussi une réalité chinoise, donc avec assez quand même contrôlé.
Alors là, autour de cette table, pratiquement tous les artistes ont leur propre site internet dans lequel ils communiquent sur leur travail. Mais est-ce qu'il existe des portails dans lesquels on va simplement trouver des liens de manière à ce que soit centralisé le travail de très très nombreux artistes et à ce que chacun puisse justement avoir une vision un peu panoptique, un peu générale de la création artistique en Chine actuelle?
Bah, il en existe, moi je peux répondre. Il en existe un qui s'appelle arts.tom.com. Et moi, je suis en train de travailler sur la version anglaise d'un site qui existe déjà en chinois, qui s'appelle artindexchina.com.
Alors, puisqu'on en est à citer des sites internet, et puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission, je voudrais citer un certain nombre de sites, notamment, bien entendu, à commencer par celui du dispositif Un peu d'Alice, c'est www.unpeudalice.org. On peut aussi citer le site qui nous est recommandé par Mu Yuming, dans lequel on retrouve nombreux éléments de son travail, c'est www.lijiangstudio.org. Et puis pour les Gao Brothers, leur site c'est www.gaobrothers.net. Peut-être d'autres sites aussi pour entendre notamment la musique de Geezer, un site internet que tu voudrais indiquer? Plus particulièrement musical.
On est en train de préparer avec Geezer un net label chinois, donc c'est-à-dire avec des, on va essayer de regrouper des justement ce qui se fait d'intéressant au niveau de la musique électronique et en Creative Commons, c'est-à-dire libre d'utilisation, de transformation. Et, voilà. Mais c'est encore un process.
On a beaucoup, évidemment, c'était le sujet de cette émission, parler de l'art et de la création en Chine et des artistes chinois. Mais il faut aussi rappeler que Un peu d'Alice, c'est une rencontre avec aussi des artistes de la région. Et peut-être, Michael, est-ce que tu peux citer en quelques mots les artistes qui vont être présents à Aix-en-Provence, à l'École des Beaux-Arts, au Pavillon de l'Enfant et puis ici à Marseille, à la friche La Belle de Mai, quelques artistes de la région, comment s'est opérée la rencontre, la sélection?
Mais en fait, c'était des artistes qu'on connaissait et dont on appréciait énormément leur travail et qu'on estimait qu'ils nous estimaient. Donc c'était aussi assez facile de leur demander de travailler avec nous et avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc c'est encore quelque chose de contextuel, quoi, parce que je pense que là on marche un peu comme un collectif, donc c'est ça qui est intéressant. En tout cas pour ces artistes en France, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des objets de Chine à ces artistes-là, pour qu'à partir de là ils aient une matière première, quoi. C'était aussi un peu le but du voyage, c'est constituer une matière première pour pouvoir faire une scénographie après, ou pour pouvoir en fait donner... aussi un axe, mais sans être du tout rigide, hein, puisqu'on a donné des cartes blanches à chacun. Voilà, une matière première pour qu'ils puissent s'inspirer et travailler dessus. Donc il y a Alain Léonési, qui est artiste et enseignant à l'École d'art d'Avignon. Il y a Jean-Paul Thibault, qui est artiste et enseignant à l'École d'art d'Aix-en-Provence. Il y a Laurent Chanet de la compagnie Circar, c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de connaître il y a déjà une dizaine d'années, qui est un performeur danseur de manipulation d'objets, de théâtre physique absolument génial. Voilà, et puis il y a les étudiants aussi, Shen Ping et Xuxie de l'école d'art d'Aix-en-Provence, mais qui vont régulièrement en Chine et qui habitent encore en Chine. Voilà, donc, et Odile également, Odile B. Donc, mais qui va faire une installation et qui, elle, bon, est partie en Chine, justement, pour la faire, quoi. Et François Lejot également. Donc, beaucoup de gens, en fait, que j'aimerais remercier, si c'est l'heure des remerciements, je ne sais pas encore.
C'est quand on veut, mais peut-être on va, après, avant les remerciements, commencer par donner un peu le programme, au moins des premiers jours des festivités, les festivités qui commencent aujourd'hui, 16 juin, à Marseille, à la friche La Belle de Mai, avec...
On va pouvoir découvrir donc Alain Léonési, qui a fait justement une installation à partir d'objets envoyés de Chine. Chez Jin Dion, qui a reconstitué une porte monumentale de 6 mètres par 8, disparue de Chine mais présente dans l'imaginaire collectif et qui est gardée par deux gigantesques guerriers. On va pouvoir voir aussi une installation interactive de Shen Ping, un monde un peu fantasmagorique du collectif Dardex et Mort de Faim. Donc on va rentrer vraiment dans le tunnel. Xuxer, qui est un étudiant d'Aix-en-Provence et qui habite également à Shanghai, va faire une installation interactive. Odile B, donc, qui va faire une installation entre vidéo et peinture. Laurent Chanel, de la compagnie Circar, qui va faire une performance très longue entre danse, investigation d'espace et performance. François Lejeau, avec ses vidéographies. Une nuit documentaire avec les très beaux films de Huning et Cao Fe, dont un a été primé à la Biennale d'art contemporain de Venise, mais on pourra voir aussi d'autres artistes vidéastes. Donc très intéressant. Également les travaux de 3D et de 2D de l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou, de Canton, qu'on va pouvoir diffuser et qui en même temps, ce soir ou aujourd'hui, je ne sais plus quelle heure il est en Chine, organise un peu d'Alice en Chine avec des travaux des étudiants. On pourra voir également le très beau film de Shi Yang Yin, qui est son histoire personnelle à travers la révolution culturelle. On pourra voir Wang Rui, l'amateur. Enfin bon, je ne vais pas faire toute la liste qui est très très longue. Et puis si je peux me permettre pour faire toute la programmation, le 20 juin, il faut absolument voir aussi les magnifiques peintures de Wei Qingji qui sont au pavillon de l'enfant à Aix-en-Provence. C'est entrée libre. Et également ensuite, il y aura une résidence avec Miu Ming à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence avec deux expositions, dont une... dans une nuit de vernissage et qui est aussi entrée libre. Pour la soirée, c'est 10 euros. Voilà.
Un peu d'Alice, c'est, je le rappelle, du 16 juin au 6 juillet. On retrouve, j'imagine, l'ensemble de la programmation sur le site, je rappelle, www.unpeudalice.org. Peut-être un numéro de téléphone si on veut avoir des renseignements ou des réservations.
Le 04 42 20 96 12.
Voilà. Merci à tous, particulièrement à Franck pour sa traduction. Je crois que, Michael, tu tenais absolument aussi à donner quelques remerciements. Alors,
oui, parce
c'est
que
le moment.
Un peu d'Alice ne pourrait pas se faire sans les autres. Donc, un peu d'Alice est un peu à tout le monde. Évidemment, j'aimerais remercier ici Franck et tous les artistes chinois qui sont venus et qui ont fait un magnifique travail de création, parce qu'on n'a pas du tout fait de la programmation, c'était vraiment des créations d'ateliers qu'on a mis en place là-bas et qui ont fait un magnifique travail. J'aimerais remercier évidemment Radio Grenouille qui nous a soutenus en fait sur cette édition. J'aimerais remercier évidemment Triangle France, Fred et Sandra en fait, qui ont le goût de l'accueil et qui sont absolument géniales. Évidemment un cabaret aléatoire avec tout le staff, qu'ils soient administratifs ou techniques. Évidemment nos partenaires qui sont la ville d'Aix-en-Provence, le CECDC et la région, et tous les lieux partenaires en fait, donc, qui vont pouvoir accueillir de l'exposition. Et un spécial merci à mes techniciens qui font un travail remarquable, voilà, et qui je tenais à tirer mon chapeau.
Eh bien, merci à toi, Michael, ainsi qu'à Odile, pour ce voyage dans les marges et au milieu de l'Empire du Milieu. À la technique, c'était Sébastien. Merci à tous. Pitola, 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 pitola.